Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Dans cette énumération des éléments constitutifs du fruit de l'esprit, une difficulté attendait le prédicateur et nous y voici. Bonté et bienveillance, quelle est la différence? On pourrait rechercher dans le dictionnaire, mais franchement, rechercher dans le dictionnaire serait assez peu concluant parce que le Nouveau Testament n'a pas été rédigé en français, mais en grec. Ce n'est donc pas le sens des mots français qui vont nous renseigner sur ce que l'apôtre Paul a voulu dire. Paul, dans ce verset, utilise deux mots, Christosune, l'adjectif c'est Christos, et, non pas Christosune, Christotes, les notes sont mauvaises, Christotes, l'adjectif est Christos, et Agathosune, adjectif Agathos. Or, ces deux termes sont tellement proches qu'habituellement, ils sont traduits dans nos Bibles par le même mot, bonté ou bon pour l'adjectif. Quand on trouve dans le Nouveau Testament bon, on ne sait pas trop si c'est Christos ou Agathos. Mais ça aurait fait bizarre de dire que le fruit de l'esprit, c'est la bonté et la bonté. Donc, il a bien fallu trouver deux mots. Et quand on lit les différentes Bibles, les différentes traductions, on voit que les traducteurs hésitent, qu'ils ne mettent pas toujours les mêmes mots. La traduction qu'on a choisie bonté et bienveillance. Il y a même une traduction, la français courant, qui inverse, traduit le premier par bienveillance et le deuxième par bonté. C'est difficile de s'y retrouver. Aujourd'hui, nous parlons de la bonté Christotès. Pour la bonté et bienveillance Agathosune, ce sera la semaine prochaine avec Michael. Et pour comprendre de quoi il s'agit, plutôt que de se tourner vers le dictionnaire, nous regarderons l'usage qu'en fait le Nouveau Testament de ce terme, Christos, Christotès. La première chose qui nous est dite dans le Nouveau Testament, c'est que Dieu est bon. Et si nous voulons comprendre ce qu'est cette bonté Christotès, il faut regarder à Dieu comme à un modèle. Un modèle, nous en avons un dans la lettre aux Éphésiens. Dieu est riche en compassion. À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendu la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il a fait cela afin de montrer dans les temps à venir l'infinie richesse de sa grâce par la bonté, Christotès, qu'il a manifestée envers nous en Jésus-Christ. Dieu manifeste sa bonté envers nous à travers le salut qu'il offre en Jésus-Christ. Et cette bonté, eh bien, elle ne fait pas dans la demi-mesure. Dieu ne se contente pas de nous donner une deuxième chance en remettant les compteurs à zéro, mais il nous donne une position imméritée, disproportionnée. Quand j'y pense, je trouve gênant à quel point le pardon de Dieu met de côté mes fautes. Et sa main, il nous l'attend avant que nous fassions un pas vers lui, alors que nous étions morts en raison de nos fautes ou alors que nous étions encore des pécheurs, comme c'est écrit dans l'Épître aux Romains. Si nous sommes chrétiens depuis toujours, peut-être nous sommes-nous habitués à cet état, peut-être oublions-nous le miracle dont nous sommes les bénéficiaires. Pourtant, ce n'est pas vous, mais quand je vois comment je me comporte encore aujourd'hui, ce que je peux faire aux autres lorsque je suis de mauvaise humeur, quand je vois les actes que je réprouve et auxquels il m'arrive cependant de me laisser aller, je ne peux que constater combien je suis indigne de l'amour de Dieu et combien sa bonté est grande de venir me l'offrir. Mais sa bonté ne se limite pas à ça. Et comme je le disais aux enfants, Dieu est bon pour les ingrats et pour les méchants. En effet, il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Dieu s'occupe de sa création et de tous les hommes. C'est ce qu'en théologie on appelle la grâce commune. Même aux plus rebelles, il donne la vie. Même eux sont au bénéfice de la bonne marche de la création, de ce qui nous permet à tous de vivre. Et ça va plus loin que ça. À travers cette grâce commune, Dieu limite également l'action du péché sur le monde. Parfois, on demande, si Dieu existe, alors pourquoi y a-t-il le mal ? Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette question posée. Si Dieu existe, pourquoi le mal ? Mais le théologien Henri Blocher amène à réfléchir, quand on connaît la puissance du mal et du péché, la vraie question est comment se fait-il que le monde n'aille pas plus mal ? Dieu limite l'action destructrice du péché sur le monde et nous en bénéficions tous. Je pense qu'à ce point, nous commençons à mieux cerner comment s'exprime la bonté de Dieu à travers le salut, cette main tendue vers tout homme alors qu'il était encore pécheur, mais aussi à travers sa grâce commune qui permet à chacun, bon ou mauvais, de continuer à vivre. Quand on prend conscience de cela, on a peut-être du mal à imaginer comment nous pouvons vivre, développer une bonté similaire alors que nous ne sommes pas Dieu. Mais la caractéristique que je retiens avant tout de la bonté de Dieu, c'est qu'elle s'exprime envers ceux qui ne l'ont pas mérité. Et je crois que, à son exemple, nous devons, nous aussi, nous ouvrir à ceux qui n'ont pas mérité que nous le fassions. Jésus nous invite, l'apôtre Paul nous invite, « Soyez bons, Christos, et pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné, Christ. » Le pardon. Voici un moyen d'être bon à l'image de notre Père. Parce que le pardon que nous pouvons accorder ne concerne pas ceux qui le méritent, mais ceux qui nous ont offensés. Pardonner, c'est montrer son amour à celui qui, pour un temps au moins, est notre ennemi. Vous connaissez certainement le débat concernant le pardon. Peut-on pardonner à quelqu'un qui ne nous demande pas pardon ? Ce débat est complexe et nécessiterait plus de temps que nous n'en avons ce matin pour être correctement traité. Mais je crois que si on conçoit le pardon comme un retranchement sur soi, en ne faisant aucun geste vers notre offenseur tant qu'il ne nous a pas demandé pardon en bonne et due forme. Alors je crois que si on se comporte ainsi, nous ne vivons pas la bonté que notre Père nous commande. Souvenons-nous que c'est alors que nous étions encore pécheurs que Christ est mort pour nous. Dieu nous promet de nous pardonner avant même que nous venions le lui demander. Quand nous nous approchons de lui, nous connaissons déjà sa réponse. Offrons-nous à nos adversaires le même accueil. Ce que je dis n'est pas facile, j'en ai bien conscience. Certains cas sont très compliqué. Nous pouvons nous retrouver face à des personnes qui ont fait des choses graves et qui ne montrent aucun signe de repentance. Et dans ces cas, la sagesse nous commande de nous protéger et d'éviter d'être la proie de personnes abusives. Mais si on ne peut accorder le pardon à notre offenseur, peut-être peut-on relâcher, laisser aller la colère, l'amertume, le désir de vengeance et les abandonner. Peut-être peut-on laisser l'autre vivre, accepter son existence, à l'instar de notre Seigneur qui laisse vivre les méchants et les ingrats, qui les laisse bénéficier de la grâce commune. Ce premier pas, plus modeste, sera peut-être le premier sur le chemin d'une réconciliation. Alors, rien ne le garantit dans ce monde pécheur, mais rien ne l'interdit non plus par l'action du Saint-Esprit. Et là, je parlais de personnes néfastes, mais plus simplement, laisser l'autre vivre, c'est aussi accepter celui qui n'est pas comme moi, qui ne pense pas comme moi, qui ne fait pas comme moi. Ça a l'air d'être une évidence de parler ainsi, mais soyons honnêtes. Combien de personnes nous irritent régulièrement de la sorte? Du coup, au fur et à mesure que je réfléchis, je vois comment je peux mettre en œuvre dans ma vie la bonté à travers l'accueil que je peux faire à celui qui mérite, qui m'offense, qui se pose comme mon ennemi. Le problème, c'est que je prends aussi conscience que ce n'est pas facile à mettre en œuvre. Parlant du pardon, la théologienne Linda Hoyer écrit qu'il est un art et non pas une science, un art auquel nous devons nous initier avec l'aide du Saint-Esprit. Ça tombe bien. C'est le fruit de son esprit que nous voulons laisser grandir en nous. Pour le faire, je crois que la meilleure chose à faire, c'est d'aller à la source de toute bonté, aller auprès de Dieu, contempler sa bonté.